de m'avoir invité et que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Vous avez les salutations de toute ma famille et que le Seigneur nous bénisse durant ces moments. Mon épouse est fatiguée, priez aussi pour elle. Il y a des périodes dans la vie où c'est comme cela et surtout, moi vous voyez, j'ai vieilli, mais ça c'est la carrosserie, hein. À l'intérieur j'ai toujours 20 ans. Voilà. Mais ce n'est pas pour tout le monde pareil, hein. Alors voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous fasse du bien. Le thème que nous allons aborder durant ces quelques jours, on a commencé hier soir, pour ceux qui ont pu se libérer des gilets jaunes. Eh bien, en fait, on a commencé par « Tout est possible à Dieu ». Il y en a trois qui suivent, alléluia. Je pense qu'on a besoin de revenir à la foi, hein. Amen. Tout est possible à Dieu. À partir du moment où on ose croire, eh bien, la parole de Dieu, si on ose croire sur parole, sa parole, alors elle peut s'accomplir. Mais faut-il la croire, donc s'y appuyer pour la vivre, hein? Si on ne s'appuie pas sur la parole, ce ne sont pas mes pensées qui vont s'accomplir si je les crois fort. Ce n'est que la parole de Dieu qui s'accomplira. Je prends un exemple simple qui est le mien, puisqu'on abordera durant toute cette semaine le fait que rien n'est impossible à Dieu et que Dieu peut faire quelque chose pour chacun. Il y a quelque temps en arrière, il y a à peu près une bonne année, un peu plus, j'avais un mal à mon avant-bras énorme, quelque chose qui a poussé d'un seul coup. Je ne l'avais pas demandé. Et puis ça a commencé à me faire très très mal, au point où la douleur, c'était comme si un chien me mordait l'avant-bras en permanence. De là, ça s'est comme infecté à l'intérieur et puis c'était pas beau. La douleur était tout le temps là, ça a duré plusieurs mois. Et puis je priais le Seigneur, je continuais à prêcher dans l'église de Saint-Étienne où j'en étais le pasteur à l'époque, le principal, aidé avec un autre frère qui maintenant est celui qui m'a succédé. Et donc, je lui confiais donc que j'avais ce problème et que je devais passer un examen plus approfondi. Et quand on a constaté donc mon avant-bras, j'avais tardé bien sûr, les mois avaient passé, et puis on a constaté par deux spécialistes que j'avais un cancer à mon avant-bras. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. On ne les demande pas. Alors moi je ne prie jamais pour mon cancer parce que ce n'était pas le mien. Quand le médecin me dit « Comment va votre maladie ?» Je dis « Non, ce n'est pas la mienne, c'est un agresseur extérieur. » Je pense que dans le raisonnement, il faut qu'on fasse attention parce qu'on s'habitue à des amis qui ne sont pas des amis. Alors quand j'ai eu le verdict par deux spécialistes qui confirmaient la chose, ils m'ont dit « Bon, on va faire une biopsie pour savoir exactement quel type de cancer. » Alors moi, dans mon cœur, j'étais paisible. Pourquoi ? Paisible parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Et je sais que si je vis, si je meurs, je pars avec le Seigneur. Je marche avec Dieu, je pars avec Dieu. Et puis je rentre à la maison, j'annonce à mon épouse et puis aux filles, puisqu'on a deux filles encore à la maison, et je leur dis, mais voilà, j'ai un cancer. Ma femme, elle commence à hurler, en disant, mais comment tu dis ça comme ça? Je dis, oui, qu'est-ce que tu veux que tu le dises comment? Pas te faire un paquet cadeau, et ça ne se fait pas. Alors j'ai plongé mon regard dans ma lecture quotidienne, parce que la foi vient de ce que l'on entend, qui vient du livre de Dieu. Et je tombe sur ce texte de la Bible. J'étais dans Ésaïe 53. Le châtiment qui est tombé sur Jésus, sur lui, nous donne la paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, je m'arrête un instant et puis je commence à remercier le Seigneur, à louer le Seigneur et à dire, ben, Seigneur, écoute, hein, tu es le maître absolu de tout et je te fais confiance. Et là, à ce moment-là, dans ce temps de prière, une petite voix intérieure que l'on peut entendre, on ne va pas demander d'entendre des voix, parce que vous allez en entendre de toutes sortes, hein. Mais elles viennent parce que l'Esprit nous habite, et quelquefois, cette petite voix, toute douce, eh bien, est là et fait jaillir sa parole. Et là, j'entends, à l'intérieur de mon être, j'entends cette parole qui me dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Ce n'était pas le texte que j'avais lu, mais c'était un texte de la Bible. Et le Seigneur, qui est l'Esprit de Dieu aussi, nous dit qu'il nous rappellera les choses et que la foi vient de ce que l'on entend, lecture, et intérieur, pour confirmer, bien sûr. Alors je loue le Seigneur et je dis, merci Seigneur, tu m'as guéri. Je regarde mon avant-bras, c'était pas beau, hein, j'ai pris une photo. Je l'ai envoyé à mes enfants, les plus grands. Et puis j'ai dit, Jésus m'a guéri. La douleur est partie dans le quart d'heure qui suivait. La biopsie est revenue, il n'y avait pas de cancer. Je rends grâce à Dieu parce que rien n'est impossible à Dieu. Par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est quand même de se fier à l'Écriture, de se confier en Dieu. Parce que Dieu est capable de faire de grandes choses. Et si vous suivez toute cette mission, je vous raconterai au fur et à mesure des choses que j'ai vécues ou dans des églises ici en France, ou bien dans des églises en Afrique, au Bénin, au Togo. Zambé à Pambolayo, Bino, pardon, pour les Congolais s'il y en a. Il y a des Congolais ? Ah non, ah, il y en a quand même qui ont réussi à se lever, alléluia ! Nous, chez nous, à Saint-Étienne, ils venaient après, hein ? Ils venaient plus tard, souvent, parce que c'est comme ça. En Afrique, ils sont là de bonne heure dans les églises, hein, très très tôt, à 6h du matin, les premières réunions. J'ai dit, mais c'est pas possible, il n'y aura personne. Mais il y a des milliers de personnes à 6h du matin. Et quand ils arrivent en Europe, il y a une mouche qui les pique à la sortie de l'avion. Nous, là-bas, il faut qu'on fasse des choses quand même pour ne pas se faire piquer par une mouche qui peut nous tuer, hein. Mais pour eux, il y a un autre système ici. Le diable se sert de tout. Il les pique à la descente de l'avion pour qu'ils soient moins violents dans la foi. Parce que là-bas, je peux vous certifier qu'il y a la violence de la foi, la violence dans la prière. Pour ceux qui sont africains, ils doivent le savoir. C'est une réalité, mes frères et sœurs. Et il faut que cette foi-là revienne et que les Africains, excusez-moi, hein, je vais faire autrement, je ne sais pas comment, je vais mettre tous ces plus larges, j'ai l'habitude de bouger. Alors. Voilà. Il faut que l'on revienne à cette violence-là. Cette violence de la foi. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et je crois que véritablement, eh bien, on va reprendre le texte que nous avons pris, la base de ce texte qui se trouve dans Marc 10, 27, où le contexte, donc, c'est un homme riche qui s'approche de Jésus, qui fait tous ses efforts pour pouvoir être parfait. Il accomplit la loi, il est sincère, il a cette forme de sincérité, il veut tout, mais il sent à l'intérieur qu'il n'est pas sûr d'aller au ciel, quoi. Et il demande. Je le résume un petit peu. Je le résume pour le dimanche matin. Et puis Jésus va lui dire, ben, il te manque une chose. Vends tout ce que tu possèdes. Et nous, on pourrait être un petit peu à la place de cet homme riche. On pourrait dire, mais tu sais, Jésus, moi j'ai fait plus de bonnes actions que de mauvaises. Donc je mérite bien le ciel. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Parce que lui, il avait de l'argent. En plus, il pouvait payer sa place au ciel. Et donc, au fond, Jésus, il va lui rajouter une chose. Il va dire, ok, tu aimes Dieu puisque tu essayes de faire tes efforts pour accomplir la loi. Mais il lui dit, maintenant, il faut que tu aimes aussi les autres. Alors, laisse tout ton argent aux pauvres et puis viens et suis-moi. Et là, c'est compliqué. Il y aura toujours quelque chose de compliqué dans nos vies. Et qu'on saura qu'on ne peut pas faire. Que c'est au-dessus de nos forces parce que notre chair ne peut pas, ne veut pas. Alors Jésus est venu accomplir un acte parfait. On a chanté ma rédemption, celui qui me rachète. Il nous a rachetés parce que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes par nos actions bonnes. On sait qu'on fait des mauvaises, ça c'est sûr, c'est ce qui fait de nous des pécheurs. Mais alors Jésus, il est venu pour sauver les pécheurs du monde. Et c'est pour ça qu'il dira en conclusion, et je vais reprendre le verset là, on va reprendre à partir du verset 26. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé si un homme qui accomplit la loi comme a dit cet homme? Si un homme qui a de l'argent ne peut pas payer son salut, mais qui peut être sauvé alors? Eh oui. Et Jésus va les regarder et va leur dire, aux hommes c'est impossible. Aucun homme ne peut se sauver lui-même. Aucun riche, aucun pauvre. aucun intelligent, aucun, eh bien, qui peut-être ne le serait, le serait moins. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur a tout accompli, car il est dit à Dieu, c'est pas impossible, car tout est possible à Dieu. Amen. On pourrait se lever tous ensemble et puis on va prier le Seigneur. Que le Seigneur nous visite, nous bénisse, que son esprit agisse sur chacun de nous. Que ceux qui sont malades placent leur confiance en Jésus. Pendant la prédication, Jésus peut poser sa main sur vous et vous guérir à l'instant même. Est-ce que vous croyez que Dieu est là au milieu de nous? Jésus est là! C'est une réalité! Nous devons oser le croire. Nous ne sommes pas venus à une réunion supplémentaire. Nous sommes venus, eh bien, nous unir au roi. Vous savez, il ré, en latin, c'est le roi. Réunion. L'union avec il ré, avec le roi. Alléluia! On est au contact du roi ce matin. Cet après-midi, on sera encore au contact du roi. Et le roi des rois, a triomphé de Satan, des démons à la croix. Il est ressuscité, vivant. Et ce matin, il est capable de faire ce qu'il faisait hier. Il peut sauver ton âme. Il peut te libérer. Il peut te guérir. Il peut ressusciter ta foi qui est au plus bas aujourd'hui. Toi qui reviens pour les premières fois peut-être, il veut t'accueillir à nouveau parce qu'il t'aime. Père céleste, je veux te prier au nom de Jésus, afin que tu viennes manifester ta grande gloire au milieu de nous, que ton esprit descende au milieu et que tu viennes toucher chacun, chacune, que tu viennes remettre de la joie dans chaque cœur. Que Seigneur, ceux qui sont dans le découragement soient renouvelés, parce qu'à toi tout est possible. Que tu agisses, Seigneur, puissamment, au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui vient des ténèbres soit anéanti ce matin. Que tout ce qui vient dans les pensées qui vient des ténèbres soit anéanti. Ce qui peut venir du raisonnement humain, soufflé par les ténèbres, soit anéanti au nom de Jésus. Que si des démons tiennent quelqu'un malade, un organe malade, une pensée, Seigneur, qu'il s'en aille au nom de Jésus et que ta gloire apparaisse, que les malades soient guéris, que tu les visites, Père, au nom de Jésus. Je te remercie pour ce que tu vas faire et tu vas poser ta main sur toute l'Église, Seigneur, afin qu'elle prospère, afin qu'elle aille de l'avant et qu'il y ait ce réveil, Seigneur, dont chacun doit s'attacher. Amen. Béni sois-tu et viens me bénir, j'ai besoin de ta grâce. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus sauve, Jésus guérit. Vous savez, Dieu nous aime et il veut nous faire profiter de toutes ces grâces qui sont sans limite. Les grâces de Dieu sont sans limite. Quelquefois, on voudrait au moins un petit peu. Mais prenez pour habitude de prendre beaucoup auprès du Seigneur. Il se plaît à donner beaucoup. Vous savez, dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, on connaît ce texte, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque jour, chaque matin, ses compassions donc ne sont pas à leur terme. » Mais juste avant, il est inscrit quelque chose d'important. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Il y a deux possibilités. Où on regarde à celui qui peut tout, où on regarde en arrière à nos propres pensées, à nos propres vécus, et on n'arrive pas à se relever parce que le passé abîme notre présent. On ne peut plus vivre ni le présent ni l'avenir en Jésus. Jésus veut que nous vivions le présent. Et cet homme, le psalmiste, dira avec force, « Mais voici ce que je veux repasser. » Vous savez, Dieu a mis en nous le vouloir et le faire. Vous l'avez en vous. C'est vous qui décidez de vouloir, car c'est déjà placé dans votre cœur. Quand ces pensées sur des choses qui ont détruit vos foyers, détruit peut-être votre relation avec vos enfants, détruit la relation avec des amis. Ne regardez plus ces choses, mais regardez à Jésus, parce qu'à lui, tout est possible. Il peut faire en sorte que les relations changent. Il peut faire en sorte que dans tes pensées, ça change. C'est à cause de cela que certains ont plein d'amertume, parce que c'est du poison, vous l'avez vu, hein ? Quand je pense à tout ce qui est passé, quand je pense à ma misère passée, à l'absinthe et au poison, mon âme, quand elle s'en souvient, elle est abattue. Et sans cesse, l'ennemi de nos âmes connaît bien comment nous sommes faits. Il a été notre ancien propriétaire. Ne l'oubliez jamais. Nous avons changé de propriétaire. Nous sommes la propriété de Dieu. Alléluia. Moi, quand j'avais mon problème, j'ai dit au nom de Jésus, va-t'en, t'as rien à faire là. Je pense que nous devons manifester la foi pour nous-mêmes avant de la manifester avec les autres, n'est-ce pas? Je me rappelle un jour, une personne s'avançant pour la guérison, et je la connaissais bien, et je lui dis, mais elle n'est pas malade, mais j'irai voir. Je ne l'ai pas vue malade. Mais si elle s'était avancée, c'est que forcément, il y avait quelque chose. Et puis, elle était jeune convertie. Et elle s'est avancée. À la fin de la réunion, je vais la voir. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, elle me dit, j'ai mal la tête, j'ai un gros rhume, je ne suis pas bien depuis un certain temps. Et je me suis dit, si je ne vais pas à l'imposition des mains pour les petites choses, si je ne m'exerce pas dans les petites choses, quand il m'en arrivera des grosses, je ne saurai pas comment faire. J'ai trouvé sa réponse excellente. Excellente. Parce qu'aujourd'hui, les années ont passé, elle et son mari sont des hommes et femmes de foi. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé par les petites choses, à faire confiance au grand Seigneur. Vous savez comme moi qu'on n'est que des hommes ordinaires, mais que l'on a un Dieu extraordinaire, à qui rien n'est impossible. Vous le croyez fermement ? Amen ! Il y en a 10 de plus par rapport à tout à l'heure. Alléluia ! Hein ? Que le Seigneur vraiment nous bénisse et que le Seigneur fasse comprendre que du côté du Seigneur, il n'y a aucun problème. Il veut vraiment manifester son amour à notre égard concernant toutes les promesses de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1. Ça va, je risque rien ? Je ne vais pas y aller trop. Hein ? Chapitre 1er de 2 Corinthiens au verset 18, je crois, 19-20, il est dit que Dieu lui-même nous dit clairement que concernant toutes ses promesses en lui, en Jésus-Christ, il n'y a que le oui. Oui, Dieu veut sauver tes enfants. Oui, Dieu veut que ta vie change. Oui, Dieu veut que tu réussisses dans tes études. Oui, Dieu désire guérir. Mais un jour, on partira quand même, hein ? Vous le savez, hein ? La dernière nous emporte. On peut être en bonne santé et partir quand même. Mais ça, Dieu seul le sait. Mais on peut prier pour obtenir. C'est ce que nous demande le Seigneur. Parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais c'est écrit dans cette parole, vous l'avez, je crois, hein, vous l'aviez sur l'écran, 2 Corinthiens 19 et 20, concernant toutes les promesses de Dieu en lui, Jésus, il n'y a que le oui. Oui pour ton salut, oui pour la grâce qu'il veut dans ta maison, alléluia. Mais le problème que l'on a, je crois, pour vivre pleinement le tout possible de Dieu, c'est notre incrédulité. Jésus n'a pas pu faire certains miracles. Vous vous souvenez ? À cause, il est écrit comme cela, de leur incrédulité. Mais il y a quand même eu des guérisons. Mais les grands miracles, eh bien, c'est parce que des hommes et des femmes osent croire qu'ils viennent rencontrer Dieu, qu'ils viennent le toucher par la foi. Un des plus grands miracles que j'ai vu, mais celui qui m'a le plus impressionné a été celui que j'ai vécu au Bénin. J'étais donc sur le territoire du serpent. Vous savez que le Bénin, c'était l'ancien Dahomey, pour ceux qui se souviennent. Hein. Et le Dahomey veut dire « dans le ventre du serpent ». C'est là-bas que l'origine vaudou est née, la grande sorcellerie vaudou. Je me souviens être dans un endroit, donc dans des petits villages, et là, la nuit, donc prêchant, on voit peu les personnes, on a très peu de lumière, c'est très peu éclairé, et j'avais l'impression que c'était tellement difficile, mais ça l'était, un vrai combat spirituel. Et dans cette soirée-là, quand j'ai prêché, j'ai rien vu de particulier. Mais, le lendemain, une personne vient en courant sur le devant pour dire au pasteur, dans sa langue là-bas, je crois que c'était en Yoruba, et elle explique ce qui s'est passé hier soir. Et donc, elle va être traduite devant tout le monde à la deuxième réunion. Elle va expliquer, voilà, j'étais infirme. Je suis venu à la réunion. Quand le pasteur a commencé à prêcher, mes yeux, c'est comme s'ils s'ouvraient. Et j'ai vu à mes pieds un être méchant qui tenait mes jambes. Et qui me disait, je te lâcherai jamais. Mais le pasteur disait, aujourd'hui tu seras libéré parce que Jésus est là. Alors elle a regardé vers le ciel. Il faisait noir, hein ? Et elle a vu un être tout de blanc vêtu descendre. Chasser l'homme méchant, elle a retrouvé l'usage de ses jambes. Alléluia. J'ai déjà vu des choses extraordinaires, mais ce témoignage-là reste dans mon cœur, parce que c'était tellement puissant. Elle était venue pour obtenir de la part de Dieu la guérison. Elle n'était pas venue à une réunion supplémentaire. Elle était venue pour toucher le roi. Si on vient comme d'habitude, on repart toujours comme d'habitude. Mais si on vient au contact de Jésus, Jésus va nous bénir. C'est pas pensable autrement. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est dans le bon lieu. Ma maison est une maison de prière. Qu'il est bon et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui vient d'en haut. Ne l'oublions pas, hein ? Qui s'écoule, qui passe par Aaron, le grand sacrificateur, par Jésus qui vient et qui nous a donné son esprit, ça vient d'en haut. Ça se déverse sur nous tous, pour se répandre partout dans la vallée. Ça veut dire pour tous les autres, pour produire un réveil. Mais s'il n'y a plus de vase, on pourrait peut-être en parler. Parce que là, le Seigneur, il fait quand même des grands miracles, n'est-ce pas ? Oui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Dieu n'a jamais abandonné ses bien-aimés. Si on voit l'histoire de ce vase, de cette femme, vous savez, cette femme qui avait deux fils, elle était pauvre, elle était veuve, le mari n'était plus là, et elle va demander, eh bien, à l'homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai plus rien, il va lui dire, mais qu'est-ce qui te reste à la maison ? Oh, j'ai bien un vase avec un peu d'huile. Alors il va lui dire, eh bien, tu vas aller à ta maison, tu vas demander partout des vases vides. Et puis, avec celui que tu as, tu vas remplir tous les vases vides. C'est quand même merveilleux quand une église se rassemble pour permettre à Dieu de nous remplir. Pour permettre d'abord de vider ce qui n'est pas bon, parce que les vases que l'on doit remplir d'huile doivent être nettoyés, bien sûr. D'avoir un petit temps où peut-être on passe quelques jours où on va demander pardon à Dieu, dans notre maison ou dans l'église, peu importe. Non pas, Seigneur, fais qu'on soit plus pur, mais fais que je sois plus pur. Cette prière authentique, cette prière vraie, qui permet au vase d'être propre, pour ensuite demander à Dieu de nous remplir de son esprit. Et il nous a dit que tous les vases vides furent remplis, alléluia ! Mais c'est la Pentecôte ! Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il doit y avoir pour notre siècle, le 21e siècle, il doit y avoir un renouveau dans les baptêmes de l'Esprit. À force d'entendre plein de choses sur Internet, on n'entend plus la parole de Dieu. Le livre, Dieu a voulu le livre. Dieu a voulu ce livre. Et à force d'écouter des choses, on écoute tout et son contraire. Et à cause de cela, on n'arrive plus à fixer notre foi sur l'Écriture. On arrive à mettre en doute les choses. On arrive à croire nos doutes au lieu de croire la parole sur parole. Nous sommes appelés à faire confiance. Cette femme a fait confiance à l'homme de Dieu. Faisons confiance à Jésus. N'est-il pas la parole faite chair? Elle a donc refermé sa maison, elle est entrée avec ses enfants, et il y a eu le miracle. Ce miracle du renouveau. Et ensuite, elle a pu vendre son huile pour sauver les enfants. Je crois que quand on est rempli du Saint-Esprit, quand une église est remplie, le diable tremble. Ils se mirent à prier, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et le lieu dans lequel ils étaient trembla. Vous vous souvenez? Vous savez que c'est écrit quelque part, ça. Ça doit être dans la Bible. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'origine. L'essence même d'une chose, c'est son origine. C'est revenir à celui qui est l'essentiel, l'origine de tout. Donc l'essentiel, c'est Dieu. Non, il est l'origine de tout. Pour aller au ciel, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais à Dieu, tout est possible. Et au fond, on a besoin de revenir à cet essentiel. Cette femme l'avait compris et elle a vu le miracle de Dieu. Elle a osé croire. Ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est qu'à Dieu, tout est possible. Même quand tout paraît complètement terminé, tout est possible. J'ai vu des situations extrêmes où ça a été... Eh bien, la finalité de la chose, ça a été pire, et puis ça a été la fin de vie de quelqu'un, mais qui s'est donné au Seigneur. Mais j'ai vu des situations extrêmes, de la même manière, où Dieu a posé sa main avec une telle rapidité que la personne est revenue à la vie, totalement, et pendant des années encore. Parce que Dieu reste le maître de tout. Il est le Dieu souverain. Mais la mort ne vient pas de Dieu. Par contre, il connaît la date de notre grand départ. D'accord ? Il sait quand le papillon quitte sa chrysalide. Parce que moi, je suis un papillon, ça ne se voit pas. Mais je quitterai ma chrysalide ou je quitterai ma veste. Je le disais hier en riant, mais un jour, vous irez à l'enterrement de ma veste. On enterrera ma veste. Il y a des gens qui sont habitués à parler à des vestes. Mais moi, je n'y serai plus. Je serai parti au ciel. Je vous attendrai sur le quai de la gare du paradis, à condition que vous ayez fait de Jésus votre sauveur, que vous ayez demandé pardon pour vos péchés, car c'est le seul. Le jeune homme riche, il est parti tout triste, parce que ce qu'il devait faire était impossible. Mais Dieu ne nous demande pas l'impossible pour être sauvés. Il a dit, venez à moi, vous tous. C'est simple, en fait. Il a payé pour nous. Il suffit d'accepter sa grâce. Et ça, c'est possible à chacun de nous. Lorsque l'on regarde la parole de Dieu, des hommes qui ont compris que tout était possible à Dieu... J'arrête à quelle heure? Bah, dis-moi, j'ai combien de temps encore? Je n'ai pas regardé le début. D'accord. Ah, je ne suis pas habitué, hein, donc je demande... Dans le texte d'Élie que vous connaissez, Élie va traverser un moment de famine. Vous tous, dans vos vies, vous avez pu traverser des moments difficiles. On ne va pas dire de la famine, on ne va pas dire quelque chose dans un pays comme le nôtre, mais ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être personnel, parce qu'on traverse des moments compliqués, de la solitude. Et les uns comme les autres, à différents âges, on a pu traverser des situations complexes. Et au fond, c'est jamais linéaire la vie. Elle a ses hauts, elle a ses bas, elle a ses très hauts, parfois même excessifs. Elle a ses trop bas. Et quelquefois, quand on est tout en bas, c'est pas simple. Mais il faut regarder vers le haut et continuer à croire dans le Seigneur. Élie était tombé au plus bas. Mais le Seigneur lui avait préparé un repas, souvenez-vous. Ce n'est pas de l'exemple là, mais il a pu manger et boire, il a pu remarcher encore pendant 40 jours. Ça prouve que si on vient s'abreuver à la source, le Seigneur nous redonne des forces. Mais après, il s'est fait encore avoir par ses pensées. Il est retourné dans une caverne. Et il a continué à repenser tout ce qu'il pensait avant. C'est jamais fini dans la tête, hein? Heureusement que le Seigneur nous aime. Vous savez, moi ce qui m'impressionne dans la Bible, c'est de savoir que Amalek n'a pas peur de l'Église ni de personne. Amalek, c'est l'image de celui qui est le diable qui vient attaquer l'Église ou les chrétiens. La maladie ne vient pas de Dieu, vous le savez, hein? Elle vient des ténèbres. Eh oui. Et lui, il n'a pas peur de venir agripper un chrétien, lui faire du mal. Et le Seigneur a dit qu'il déclarait la guerre à Amalek, puisqu'il dit, il y aura guerre, c'est Dieu qui l'a dit, hein. Il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Quelquefois, on n'a peut-être pas bien perçu que c'est Dieu qui lui déclare la guerre, au travers de nous tous. Et quelquefois, on fait l'inverse. On se dit, c'est l'ennemi qui nous frappe, alors on est là avec le bouclier, mais oh, mes frères et mes sœurs, on a une épée, un casque, hein. Je dis toujours en souriant, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais faut-il encore qu'on soit armé? Le Seigneur a dit, prenez toutes les armes de Dieu. Et vous regarderez dans Éphésiens 6, quand il est parlé des armes, le casque et l'épée, c'est un kit. Ils sont ensemble. Si vous n'avez pas le casque, vous ne pourrez pas brandir l'épée. C'est une réalité, hein? Parce que c'est marqué, le casque et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et non pas qui sont. Mais qui est, c'est une faute d'orthographe, hein? Non, pas du tout. Qui est, ils sont ensemble. Donc, au fond, c'est vraiment ensemble. On peut manifester l'épée si on a le casque, parce que l'ennemi veut nous avoir ici. Dans vos pensées. Oh, tu crois, vu ce que tu as fait hier, que Dieu va te bénir aujourd'hui? Mais bien sûr que je le crois. Dieu m'a pardonné. Dieu me pardonne. Et je le crois. Je suis sur le chemin de la perfection. Oui, je ne suis pas parfait, mais lui me voit déjà parfait. Amen. Est-ce qu'on a cette notion-là pour triompher par la foi? On est en construction. Dieu, il a un plan. C'est le divin architecte. Quelquefois, on a tout abandonné. Alors, la construction, elle est en plan. Elle est arrêtée. Il y a du lierre qui pousse un peu de partout. Regardez des constructions qui sont arrêtées depuis quelque temps. Ben, si vous êtes spirituellement comme ça, c'est votre image. Mais ça peut reprendre. Vous comprenez, hein? Ça peut être notre image si on traverse ces moments-là. Mais le Seigneur, il ne veut pas qu'on reste comme ça. Il veut que les travaux continuent parce qu'il a un plan parfait. Il voit la maison finie. Il te voit fini, donc il te voit déjà parfait. Il sait que ça ne va pas. Mais il veut faire. C'est lui qui a dit, vous serez saints car je suis saint. Et il sait très bien que vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est la parole de Dieu qui va parfaire ce que vous n'êtes pas capable de faire. Eh oui, parce que c'est la vérité qui nous lave, qui nous purifie. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Elle continue de vous purifier. Les trois rendent le même témoignage de purification. Eh oui, le sang qui purifie, qui nous lave quand on demande pardon, la parole qui nous lave à l'intérieur et l'Esprit de Dieu qui nous transforme. On est donc sur ce chemin. On peut donc répondre à celui qui nous dit « Non, tu ne peux pas recevoir parce que ceci, parce que cela. » Eh bien, stop ! Ce que je veux faire, c'est regarder vers Jésus. Quand j'ai demandé pardon, je regarde à Jésus. Je ne regarde pas le problème et je ne lutte pas contre le problème. Parce que ça, ça ne marche pas non plus. Regardez Pierre, il a commencé à marcher sur l'eau. Il regardait à Jésus, tout marchait bien. Mais quand il est face au problème, ça ne va plus. Ce n'est pas le problème que l'on doit... On ne doit pas lutter contre le problème. On doit lutter pour revenir vers Jésus. Parce que Jésus va nous parfaire. Alléluia. C'est par grâce que nous recevons tout cela, parce que Dieu nous aime. On a besoin de réorienter nos vies, parce qu'à Dieu tout est possible. Alléluia. Et oui, Élie donc traversait ce moment de famine, et Dieu lui montre qu'il doit aller à tel endroit, au torrent de Kérit, et il va être ravitaillé par les corbeaux. Ah, vous le savez, hein? Eh oui, On dit comme ça, hein? Eh oui. Les corbeaux vont lui donner à manger, de la viande tous les jours. Et franchement, il va manquer de rien. Jusqu'au jour où le torrent il a séché, et Dieu va lui dire d'aller ailleurs, d'aller à Sarepta. Sarepta, où là, il doit rencontrer une femme qui s'occupera de lui. Il est conduit par Dieu. Mais n'oublions pas qu'Eli veut dire « mon Dieu est l'Éternel ». Et qu'en même temps, eh bien, c'est un homme qui se tient devant Dieu. Il a une relation vraie, authentique avec Dieu. Et on peut comprendre qu'il a cette facilité d'entendre la voix divine. Il est prophète. Et donc, il va aller à Sarepta, et là, il va voir une femme, il va lui demander de l'eau, à croire que Dieu avait bien dirigé les choses. Eh oui, parce qu'il doit y avoir quand même plusieurs personnes, en plus c'est la famine, et lui demande de l'eau. Quand même étonnant, hein? Elle va lui amener de l'eau. Quand elle lui aura amené de l'eau, il va lui dire, ben, tu m'amèneras maintenant un repas, un gâteau, hein? Elle dit, mais j'ai plus beaucoup de farine, il reste un peu de farine, un peu d'huile. Je vais faire à manger pour moi et mon fils, après on va mourir. Pour toi aussi, puis après on mourra, quoi. Et il lui dit, au nom de l'Éternel, non, non, au nom de celui que tout est possible, il ne manquera ni d'huile ni de farine dans ton pot, si tu me fais d'abord ceci. Et c'est ce qu'elle a fait. Et on voit l'impossible devenir possible. C'est la foi, c'est ça en fait. La foi, c'est exactement ça. C'est croire dans l'invisible ce que vous ne voyez pas, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, qui va devenir une démonstration. Donc ça va être visible. Si tu crois au présent, tu verras au futur. Ma prof de français m'aurait dit, tu te trompes dans les conjugaisons. Mais Dieu ne se trompe pas. Tu crois au présent pour vivre le futur. Quand on prie pour les malades, vous devez croire que vous êtes guéri. C'est votre foi qui rentre en action. Si c'est un miracle, vous aurez la guérison de suite. Mais si c'est le don des guérisons, vous ne l'aurez pas maintenant. Vous l'aurez dans la journée, dans les 2-3 jours qui suivent. Mais vous l'aurez si vous osez continuer de croire. Là, c'est votre foi. Mon juste vivra par la foi. Mais dans Habacuc, il y a une précision. Mon juste vivra par sa foi. Il faut mettre les deux l'un à côté de l'autre. Mon juste vivra par la foi, parce que mon juste est habitué à prendre la nourriture de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Donc la foi grandit. Mais maintenant, quand elle grandit, ça sert à quoi d'avoir une foi qui est si grande et de ne pas savoir l'utiliser? Puisque un tout petit peu de foi est suffisant. Mon juste vivra par sa foi, la sienne. Ça nous est personnel. Et je dois l'exercer. L'Église, c'est comme un champ de bataille, hein? On apprend à exercer la foi. On prie pour nos frères, on prie pour nos sœurs, on prie pour le papy, pour la mamie, on prie pour ceux qui sont dans le besoin, on prie pour les gens du dehors. C'est un terrain de bataille. Et on s'entraîne. Et dans l'Église, on voit des guérisons, on voit des miracles, on voit des conversions, on voit des vies changées, des vies transformées. Eh oui. Et lui, donc, Élie, dans ce moment de famine, oui, c'est la famine, mais il y a quand même une action de Dieu. Le miracle, parce que Dieu est avec Élie. Dieu est avec nous. Amen. Hein? Dieu veut continuer à bénir. Et puis, on va voir que l'enfant va mourir. La réaction de la femme, elle est plutôt négative, on pourrait dire. Mais l'homme de Dieu va prier pour cet enfant. Et il va demander que son âme revienne. Et là, dans ce moment de famine, où il se passe peu de choses, pourtant, il y a de l'eau, il y a de la farine, il y a de l'huile, et il y a aussi la résurrection d'un fils. Je trouve ça extraordinaire. On peut traverser des moments difficiles, mais celui qui marche avec Dieu verra des choses extraordinaires quand même. Amen. On doit oser le croire pour le vivre. Dieu n'a pas changé, Dieu ne changera jamais, jamais, jamais. Souvenez-vous de ce prophète qui s'appelait Élisée. Élisée qui mourut de la maladie dont il était atteint. Un homme de Dieu, comment? Oh là là, qu'est-ce qu'il a dû pécher, celui-là? Non? Non, non. Un chrétien peut partir d'une maladie, hein? Ça serait faux de dire un chrétien ne peut pas être malade, ou sinon ça ferait un piètre chrétien. Pas du tout. Moi, j'ai bien été malade, et puis un jour, la dernière maladie m'emportera. Et puis si ce n'est pas la dernière maladie, ça sera le dernier souffle. Ce n'est pas une maladie que le dernier souffle s'en aille, hein ? Ouais, c'est comme ça. Et au fond, cet homme qui est malade, tout le monde le sait parce qu'on connaissait l'homme de Dieu. Il va voir le roi d'Israël, il se voit avec le roi, et puis le roi, il est là, il dit, toi qui diriges toutes les cavaleries, toi, tu vas mourir. Tu vas... Enfin, en gros, il pleure, quoi. Il pleure de voir la condition d'Élisée. Le roi d'Israël, qui devrait avoir la foi. Alors lui, il a encore la foi, cet homme malade, hein ? Il dit, allez, prends ton arc, prends tes flèches, prends ton carquois. Il le réveille, c'est le malade qui dit à l'autre, allez, prends tes flèches, ouvre ta fenêtre, tire une flèche en l'air. C'est une flèche de délivrance. Mais rappelons-nous, quel que soit le problème, on doit garder la foi jusqu'au bout. Parce qu'à Dieu, tout est possible jusqu'au bout. Il va ouvrir la fenêtre, le roi, et il va lui dire au roi, Élisée va lui dire, allez, tire la flèche en l'air. C'est une flèche de délivrance, parce que la délivrance nous vient d'en haut. Elle nous vient du ciel, et elle descend sur la terre. Alléluia. Christ a quitté son ciel de gloire pour venir nous sauver, pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est glorieux, hein ? Et ensuite, il lui dit, allez, tire des flèches vers le sol. Et il va faire une, deux, trois, il va en lâcher trois. Il en a plein son carquois. Vous savez, c'est terrible de voir cela, mais c'est terrible parfois de voir des chrétiens qui commencent à prier et qui s'arrêtent en route. Il dit, c'est dommage, tu aurais pu gagner totalement contre ton adversaire, mais tu t'es arrêté. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ne vous arrêtez pas de prier. Bien sûr, vous lisez des livres. L'apôtre Paul a prié trois fois et la réponse a été « Ma grâce te suffit ». Mais c'est écrit qu'une seule fois dans la Bible. Hein, tout le reste, il y a eu beaucoup de choses hein, quand même. Hein ? Mais ça vous a arrêté. C'est bien dommage. Oui, moi, la grâce de Dieu me suffit, mais je veux tout ce qui coule d'en haut. Toute grâce excellente et tout don parfait. Descendre d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors moi, je veux tout. Je veux tout. Si Dieu me dit clairement une chose, je la crois. Mais parce que je suis intime avec sa parole. Dieu nous parle d'abord par son livre. Eh oui, tous ces exemples, eh bien, sont là. Vous savez, quand on compare un petit peu ces textes, la pensée humaine qui est limitée, on peut peut-être regarder à nous-mêmes. La veuve de Sarepta, elle pense que pour elle, c'est fini, elle va mourir. Elle croyait en Dieu pourtant, mais elle pense que c'est fini. Ben, ce n'était pas fini. Vous voyez ? Nos pensées ne sont pas la vérité. Les événements ne sont pas la vérité. Peu importe l'événement, peu importe ce que nous pensons, ce qui est important, c'est que Dieu dit. Ce que Dieu dit, je dois le croire. Amen ? Eh oui, quand on regarde, eh bien, quand cette femme dit « j'ai pas grand-chose en fait », on pourrait nous répondre, « Oh ben moi je suis rien, hein. Tu sais je suis pas grand-chose Seigneur. » Et alors ? Qui peut se targuer d'être grand ici ? Personne. On est tous des pécheurs sauvés par grâce. On n'est que des petits et des ordinaires. Mais que Dieu parfait pour en faire, par sa grâce, des hommes compétents, qui arrivent à leur donner l'intelligence nécessaire. Des hommes comme Daniel et ses amis, chapitre 1, je crois que c'est verset 17, il me semble que c'est ça, mais vous le chercherez, c'est dans le chapitre 1. Il est dit que parce que ces hommes ont mis Dieu en premier, ils ont eu de la part du Seigneur l'intelligence. Dieu leur a donné l'intelligence et la sagesse. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis Dieu d'abord. Plus la révélation des choses spirituelles. Dieu a agi pour qu'ils soient bénis sur le plan eh bien, de la vie de tous les jours, mais aussi pour le spirituel et pour l'avenir. Si on met Dieu en premier, on est béni. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus, car à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Alléluia. Hein ? Vous voyez, c'est une marche comme ça qu'on doit voir. Et au fond, quand on regarde ces trois flèches et cet homme qui s'est arrêté d'envoyer, ben nous, on est comme ça parfois. On vient prier, puis après on s'arrête, on se dit, ben on n'a pas de réponse. Donc écoutez, on va arrêter. Est-ce que Dieu m'entend ? Est-ce que Dieu m'aime encore ? Mais vous ne devez jamais douter de cela. Dieu vous aime encore. Vous pensez que moi, je n'ai pas de problème? Mais j'en ai plein des problèmes. Je suis en moi-même un problème ambulant. D'ailleurs, Dieu n'a pas voulu en faire un élevage. Hein? Il a dit un seul. Basta. Ne riez pas, parce que pour vous, c'est pareil. Hein? Un suffira. Hein? Parce qu'on ferait quoi après? Hein? C'est déjà compliqué comme ça avec nous. Hein? Ouais, le Seigneur nous aime. Hein? Eh oui. Alors, quand on regarde la limitation, notre limitation, et en fait, tout ce qui va nous empêcher, vous savez que le diable, il ne veut pas qu'on prie. Le diable, il ne veut pas qu'on vienne à l'église. Le diable, il ne veut pas que tu sois là. Il ne veut pas que tu reviennes l'après-midi. Mais vous allez revenir l'après-midi parce que simplement, vous allez faire le contraire de ce que le diable vous dit. Vous allez même amener des amis et le Seigneur va bénir. Parce que Dieu est grand. Qui doute que Dieu est grand? Personne, j'espère. Hein? Peut-être que quelqu'un n'est pas converti, n'est pas encore au Seigneur. Mais que le Seigneur touche ton cœur ce matin. Parce qu'il existe bien. Il est là. Alors on va prier. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'à chaque fois, il s'est passé quelque chose. Et que le Seigneur est bien face ce que nous ne pouvons pas faire dans nos vies. Si on est malade, si on n'est pas bien, on va pouvoir avoir un temps où, avec le pasteur, on va pouvoir prier. Que le Seigneur étende son bras. Je vais vous demander, eh bien, de vous lever si vous avez besoin de la prière, quel que soit.